C'est 23.
Voici la commission Normando-Ferrandaise.
Alors hier, on a nommé un nouveau protecteur du citoyen et ça s'ajoute bien sûr à la liste des gens qui sont mandatés pour défendre l'intérêt public, comme par exemple commissaire à la santé, vérificatrice générale, puis bon, protecteur du citoyen. Ils font des rapports, des recommandations, c'est plus ou moins suivi par les élus. Et la question ce matin qu'on pose, est-ce que ces chiens de garde qui sont là pour défendre nos intérêts ont vraiment du pouvoir? Nathalie.
Ben, ils ont leur utilité, Paul. C'est vrai qu'ils font des beaux rapports. Parfois, on a l'impression que tous ces rapports sont tablettés. Mais ce sont des organismes qui sont, oui, utiles, nécessaires et j'ajouterais indispensables. Pourquoi? Parce que tu as utilisé l'expression chien de garde. C'est des organismes, vérificateur général du Québec, protecteur du citoyen, commissaire à la santé, qui font contrepoids, qui agissent comme des pare-feux, des remparts face aux dérives de certains ministères et organismes. Je vous donne des exemples concrets, là. Le FAGO Gautier, hein, le fameux bateau dont on a tant parlé au Québec, mais si ce n'était du vérificateur général du Québec, jamais la Société des transports des traversiers du Québec n'aurait modifié sa façon de gérer les mandats pour ce qui est de la construction de navires d'envergure. Louis Robert, le lanceur d'alerte du MAPAC qui a dévoilé au grand jour les enjeux liés, les liens qui unissaient le ministère de l'Environnement aux propriétaires. En fait, aux ceux qui évoluent dans le domaine des pesticides, entre autres, et si ce n'était du rapport de la protectrice du citoyen, jamais Louis Robert n'aurait réintégré le ministère de l'Environnement. Alors oui, c'est utile. De l'agriculture, oui, j'ai dit environnement, c'est agriculture. Jamais Louis Robert n'aurait réintégré le ministère de l'Agriculture. Alors oui, ce sont des organismes qui sont pas, tu sais, c'est pas des organismes flamboyants, mais qui jouent un rôle fondamental dans l'équilibre qu'on doit maintenir dans notre démocratie, dans notre système démocratique, pardon.
Moi, pour la protectrice du citoyen, je dirais oui, mais... C'est-à-dire que oui, c'est un rempart, et puis mais le titre même, ça dit protectrice du citoyen, parce que la vision qui était derrière ça, c'était une personne ou quelques personnes qui passent à travers les mailles du système à cause d'une injustice, à cause d'une bureaucratie quelconque, une loi mal rédigée, une exception qu'on n'avait pas vue. Et là, cette personne-là s'adresse en bout de ligne à la protectrice, au protecteur du citoyen, et on tente de régler son problème, puis en même temps de corriger les règles administratives qui l'ont entraîné. Sauf qu'avec le temps, de plus en plus, on les connaît, ces problèmes-là, et c'est loin d'être les petits problèmes qui passent entre les grilles, là. Ce qu'on comprend de plus en plus, c'est qu'il y a des énormes trous dans la protection sociale, dans le filet de protection sociale de l'État, et que ces trous-là, on les connaît, mais il n'y a aucun gouvernement qui veut les combler ou qui veut les corriger, parce que trop d'argent, trop complexe, manque de personnel, beaucoup trop d'argent pour une seule personne. Chaque cas est compliqué, exige des sommes considérables. Enfin, je prends les derniers rapports de la protectrice. Là. Le déni de droit pour le logement pour les aînés. Bon, c'est clair que ça existe, là, que tout le monde écrit sur tous les toits et que le gouvernement fait peu ou pas, ou très peu même. Tu sais, Mme Laforêt qui a répété à de nombreuses reprises qu'il n'y avait pas de crise du logement. Mais elle a pas rencontré individuellement ces gens-là, notamment les aînés, qui sont incapables de se loger si jamais ils doivent quitter leur logement. Et souvent, ce sont des aînés qui doivent quitter leur logement parce que justement parce qu'ils occupent des logements depuis des années, ben le bail coûte moins cher. Alors ce sont ces personnes-là qui sont victimes d'expulsion très souvent, de rénoviction en particulier. Le programme de prêts et bourses pour les personnes ayant des limitations physiques, santé mentale, etc. Il n'y a pas beaucoup de souplesse. Il n'y en a pas, paraît-il, aucune en fait. Et là, la protectrice du citoyen disait, est-ce que vous pourriez considérer qu'il y a des étudiants qui ne peuvent pas étudier à temps plein à cause de leurs limitations, mais les prêts et bourses devraient être considérés comme si c'était un temps plein. Il me semble que c'est un peu d'humanisme qui devrait être mis en place. Un autre exemple, les CHSLD avec la COVID. Comment ça se fait qu'on était si mal équipés dans les CHSLD au moment de la COVID? Donc, les services de soins à domicile aussi. Mais ça, les services de soins à domicile, tu vois, c'est un bon exemple parce que c'est 2 milliards que ça prendrait pour rejoindre les normes de l'OCDE. Il n'y a pas un gouvernement qui veut mettre 2 milliards pour l'instant.
Nathalie, donc, oui.
Mais tu vois, Luc, il n'y a rien qui est parfait. Il n'y a rien qui n'est parfait. Par exemple, le protecteur du citoyen, c'est une institution qui existe depuis 1968. Le vérificateur général du Québec, c'est une institution, c'est la plus vieille institution du Québec. Elle existe depuis 1868. Est-ce qu'on pourrait imaginer au Québec demain matin que le protecteur du citoyen, par exemple, ne serait plus là? Si on disait c'est fini le protecteur du citoyen, imagine à quel organisme les citoyens du Québec se sentent lésés pourraient s'adresser, étant entendu que l'appareil gouvernemental, c'est une immense machine qui souvent se comporte comme un bulldozer. Mmh. L'autre exemple que je peux donner qui m'est venu en tête en préparant ce sujet hier, c'est les gens qui se battent et qui doivent être indemnisés par la SAAQ ou la CNESST, qui se battent pendant des années pour être indemnisés comme il se doit, mais malheureusement, souvent, ne sont pas traités avec équité et justice. Alors, le protecteur des citoyens est là pour prendre leur défense, pour accompagner des citoyens qui sont complètement dépassés par l'envergure du combat souvent qu'ils ont à mener. Ça, c'est des exemples concrets. Oui. Imagine, Luc, rien n'est parfait, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais le protecteur des citoyens, s'il n'alarme pas la société, le gouvernement ou les médias ou les députés de l'Assemblée nationale, parce qu'il ne faut pas oublier que le protecteur et le VGQ sont au service des députés de l'Assemblée nationale, s'il n'alarme pas, s'il n'appuie pas sur ce qui ne va pas,
je suis d'accord avec toi de la nécessité de les avoir, mais on se retrouve dans un cirque où t'as la protectrice du citoyen qui fait des appels légitimes au gouvernement là, sur tous les dossiers que je viens de te mentionner. Puis le gouvernement dit oui, c'est sûr, on va s'en occuper. Mais ça coûterait X milliards de dollars. Fait que finalement, on le fait pas. Et puis après ça, il va y avoir un autre rapport, puis un autre rapport. J'aimerais une discussion honnête à un moment donné. Une discussion honnête en disant, bon, ben, par exemple, pour les services de soins à domicile. Voici le plan pour les services de soins à domicile. On n'a pas l'intention de dépenser une scène de plus parce qu'on met notre argent ailleurs. Fait que quand bien même que tu ferais 5 rapports en ligne, là, je ne le ferai pas. Mais il n'y a pas un gouvernement qui va dire ça. Il n'y a pas un gouvernement qui aurait l'honnêteté de dire le logement pour les aînés, je suis désolé, je m'en occupe pas. Ou très peu. Très, très peu. Au contraire, c'est constamment de la dissimulation. C'est constamment dire, écoutez, on a mis 200 millions pour du logement abordable. 200 millions, ça donne 2000 logements divisé pour tout le Québec. 2000 logements divisé par 16 régions administratives. Penses-tu que c'est comme ça que tu vas régler la crise du logement, toi, chose?
Ben, je sais, Luc, que c'est frustrant, mais en même temps, chaque gouvernement a ses priorités. La vision de Québec solidaire est très différente en matière de logement, par exemple, en matière de soins à domicile ou de santé, est très différente de celle de la CAQ ou celle du Parti libéral du Québec. Alors, il faut composer avec ça dans notre société, mais en même temps, je trouve ça intéressant que tu dis, ça serait le fun d'avoir une discussion honnête à un moment donné là-dessus. En fait, ta question soulève les limites avec lesquelles travaille et le protecteur citoyen, le VGQ, le commissaire à la santé, parce qu'ils peuvent faire toutes les plus belles recommandations du monde, mais en bout de ligne, ça appartient au gouvernement de les mettre ou non en branle. Puis écoute, Luc, les raisons qui sont derrière la mise en œuvre ou pas de recommandations, parfois ça se justifie, là, parce qu'effectivement, il manque, les budgets sont pas illimités, alors tu vois, mais c'est intéressant qu'on ait cette discussion-là ce matin, parce que ça nous rappelle l'importance de la reddition de comptes dans notre société. Tous les organismes ministères qui existent sont imputables parce qu'ils utilisent des deniers des contribuables. Ça, faut jamais perdre ça de vue là, sur la question qui nous occupe ce matin.
Ben, je voudrais quand même dire que c'est vrai que des fois, ça marche. Je parlais des grands domaines où ça marchait pas, mais en 2017, la protectrice du citoyen, Mme Rinfret, avait mis l'avant les cas précis d'enfants qui sont nés de deux parents qui n'ont pas leur statut d'immigrant ou n'ont pas de papier. Et ces enfants-là n'avaient pas le droit à l'assurance maladie. Donc, tu peux avoir un enfant qui avait des problèmes de surdité puis qu'on pouvait strictement rien faire pour lui. Et là, ça a été corrigé. Il y a aussi, quand toi, tu l'as vu au gouvernement, moi, je l'ai vu à la ville, lorsque tu évoques le fait que le maire ou le premier ministre veut régler un problème parce qu'il a été signalé par la vérificatrice générale, et ça avance, ça aide au dossier, là. Parce que là, écoute, il faut qu'on le règle, ça a été souligné, puis moi, je veux plus que ça soit souligné dans le prochain rapport, fait que tu me règles ça tout de suite. Je peux te dire que ça a du poids, des fois.
OK, on fait la pause et au retour, vendredi, le rapport des commissaires.
La commission Normando-Ferrandaise.
Alors, Luc, c'est toi qui nous présente ton rapport de la semaine.
Donc, la résidence Villa Mondomaine a fait travailler des travailleurs étrangers pendant des mois sans permis ni salaire. Au début, je me suis dit, OK, petite erreur administrative. Après, quand j'ai lu, je suis tombé à terre. Tombé à renverse. Des travailleurs venus d'Afrique qu'on n'a pas payé pendant 11 mois, jusqu'à 11 mois, Pas de congé, même lorsqu'ils étaient malades. Seulement 5 $ pour faire leur épicerie. 50 $ pour faire leur épicerie par semaine. Hey, la maudite gang de bougon, toi. Le propriétaire de la Villa Mondomaine, là, premièrement, tu fais honte à tout le monde. Tu fais honte à la nation. Tu fais honte à ton le type de travail que tu fais. Tu fais honte au métier même de recevoir, d'accueillir. Puis tu fais honte à ta famille. J'espère que tu vas te faire regarder dans les yeux, puis tu vas te faire mépriser pendant un maudit bout de temps, jusqu'à temps que tu sois amendé, puis amendé comme il faut. Parce que si les travailleurs africains sont venus ici, là, penses-tu que c'est parce que ça leur tentait de voir la neige? C'est parce que ces gens-là, ils viennent ici tout seuls, ils s'expatrient seuls, ils laissent leur famille dans leur pays pour leur renvoyer de l'argent. Fait que l'argent que tu leur as volé, là, c'est l'argent que tu as volé à des familles extrêmement pauvres en Afrique. J'espère que tu as honte sur un maudit bout de temps. Ça, c'est mon premier point.
Oui.
Excuse-moi, c'est pas humoristique le matin, malgré même.
Lui, il prétend que c'est pas vrai, là. Il y a une plainte.
Ah, hein? Ben voyons.
Ouais, le propriétaire lui a dit non, je comprends pas ce qu'il prenne ça, mais le dossier, pareil, il y a des plaintes.
Ben, ça serait pas
endroits.
Son premier mensonge. Deuxième chose, oui. Madame Massé, va me calmer un petit peu.
Prends un petit camomille, mon Luc.
Ouais, c'est ça. Madame Massé rejoint Monsieur Duhaime, dont on a parlé hier, en disant, Monsieur Duhaime disait, pourquoi on n'efface pas les contraventions qui ont été émises pendant la COVID, pendant la crise sanitaire, à ces gens qui parfois, donc Mme Massé dit, parfois sont des gens démunis, des gens qui ne savaient pas ou qui n'étaient pas au courant ou qui n'ont pas les moyens de payer des contraventions, etc. C'est drôle comment des fois, l'extrême gauche peut rejoindre l'extrême droite. Ça arrive souvent sur certains dossiers. La droite rejette le rôle de l'État en règle générale. T'sais, l'État est pas bon. Partout où il est, c'est pas bon. Faut s'en débarrasser. C'est toxique. Ça empêche la liberté, etc. La gauche fait ça aussi beaucoup quand l'État fait de la contrainte. Par exemple, lorsque l'État fait des vérifications chez les personnes qui sont bénéficiaires de l'aide sociale, lorsque l'État fait des... comme la police. La police, ça, c'est le meilleur sujet. Lorsque l'État fait intervenir la police pour faire appliquer des pénalités, on considère toujours que l'État fait mal son travail avant même de regarder, avant même de se pencher sur la question précise, comment ils ont fait leur travail. Et ça me surprend parce que derrière les policiers ne sont pas levés un matin en disant « Tiens, nous autres, on va aller mettre des contraventions. On va aller mettre des contraventions, là, ça nous tente. » Il y a eu tout un consensus de la société. Après ça, il y a eu une décision de l'État. Après ça, eux sont allés sur le terrain puis ont remis ces contraventions-là. Mais ça ne venait pas de leur intention de répression. Et ce sont des travailleurs. Si tu dis « Les X milliers de contraventions que vous avez mis, là, on demande à l'État de les enlever. » là. Mais t'as fait travailler des gens, là. T'as fait travailler des travailleurs. Puis pour la gauche, ça devrait être quelque chose, un point sensible. Ce ne sont pas des êtres méprisables, le bras armé de l'État. Ce sont des travailleurs. Puis, ces gens-là, tu leur dis, tout le travail que vous avez fait, là, on passe ça à trappe. Moi, à l'Assemblée nationale, j'ai décidé que ce travail-là passait à trappe. Vraiment pas d'accord avec ça. Un autre sujet d'indignation ce matin, je suis dans le thème de l'indignation, je m'en rends compte en passant à travers mes sujets, c'est le ministre de la déforestation.
Ah, ton préféré?
Ah oui, il s'enfonce encore.
Lui, d'après moi, là, il est en première place dans ton palmarès. Là.
Oui, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il prend jamais de break.
Non, je le sais.
Écoute, il y a un rapport, il y a une enquête qui est sortie à l'émission Enquête, justement, sur la fameuse tordeuse d'épinette. La tordeuse d'épinette, parce qu'il y a la tordeuse d'épinette, on va donner plus de droits de coupe aux entreprises. Parce qu'il y a la tordeuse d'épinette, on va réduire de 50% le coût du bois, etc. On va donner des subventions. Ils ont fait une enquête approfondie de tous les moyens qui ont été utilisés par l'État pour donner plus d'argent aux forestières, soit en déforestation, soit en usine, en s'appuyant sur la tordeuse d'épinette. Et une des façons de faire, c'est tordu, là, et ça court depuis des années, notamment sur la côte nord, c'est que il y a un encan pour savoir qui va avoir le droit de prendre un territoire de coupe. Le territoire de coupe. Et où le résultat de ce territoire de coupe, c'est-à-dire le bois qui va en sortir. Puis si personne répond à l'encan, ben là, le gouvernement considère qu'il est en mode, il est plus soumis à la loi. Il peut donc faire céder ce territoire-là à un coût dérisoire. Mais c'est ce qu'ils font. C'est-à-dire que ils font un appel d'offres, ils font un appel à un encan, puis là, personne répond à l'encan, puis après ça, le gouvernement, hop, il donne à 60% moins cher à une entreprise du coin. Et ça, c'est une pratique qui devrait pas être tolérée par l'État, là, vraiment pas tolérée par l'État. Alors, c'est de la subvention directe à des entreprises qui ne sont pas profitables depuis des années et qu'on engage de façon artificielle à faire quoi? À faire de la déforestation.
Nathalie.
Paul, pour la première fois de l'histoire de la commission, c'est la première fois que Luc et moi, on a un sujet qui est le même dans notre rapport.
Ah bon?
C'est ce flirt impromptu entre QS et le Parti conservateur d'Éric Duhaime. Oui, j'appelle ça flirt impromptu parce que jamais on aurait cru que les deux auraient une position commune ou presque commune sur le non-respect, l'annulation du non-respect de certaines mesures sanitaires. Rapidement là-dessus, vous rappelez que après la crise étudiante, en 2017, la ville et les villes de Québec et de Montréal ont annulé 500 constats d'infraction liés à ce conflit. Alors peut-être ça sera inspiré le gouvernement, on ne sait pas. La médaille d'or cette semaine, j'aurais envie de désigner une médaille d'or, de donner une médaille d'or à Marie-Josée Turcotte pour ses 40 ans à Radio-Canada. On a appris qu'elle allait quitter l'antenne à titre de journaliste sportif et chef d'antenne justement. C'est une carrière absolument extraordinaire, exceptionnelle. Moi, j'ai énormément d'admiration pour elle et j'ai envie de vous dire qu'elle mérite tous les hommages qui lui ont été rendus. Luc, je ne sais pas ce que tu en penses, REM de l'Est. J'ai pas eu l'occasion de t'écouter ce matin avec Paul, là, mais moi, là, plus j'y pense, je vous dis, là, plus j'y pense, plus c'est risqué, puis plus c'est une mauvaise idée. En fait, je salue tout le travail qui était fait par les 200 architectes, techniciens, ingénieurs. Ils ont fait un travail absolument formidable pour arriver à la meilleure intégration urbaine possible. Mais moi, j'arrive pas à m'imaginer qu'une immense dalle de béton blanche surélevée se déploie sur une distance de 24 kilomètres. J'arrive pas. Je vous le dis, là, je me ferme les yeux puis je me dis, ça se peut pas. Et j'ajoute à ça le 10 milliards de dollars qui servira à quoi? Oui, à assurer une meilleure desserte en transport collectif pour l'Est de Montréal, mais en bout de ligne, c'est quoi? C'est 8000 voitures de moins sur la route. C'est une facture de 1 milliard. Ça, c'est le minimum pour qu'aurait assumé la Ville de Montréal pour les aménagements, les beaux aménagements que propose le CDPQ Infra. Un train aussi qui va cannibaliser la clientèle du métro. Une facture salée pour les contribuables de Montréal également, du Grand Montréal métropolitain, probablement du Québec également. Et là, je me suis dit, si on n'avait pas accès à ce 10 milliards de dollars de la Caisse de dépôt, qu'est-ce qu'on ferait? Bien, on serait obligé de penser autrement à l'organisation du transport collectif pour l'Est de Montréal. Ça nous permettrait, en fait, ça nous obligerait à penser différemment. Là, évidemment, on a les deux mains dans le plat de bonbons, puis il y a de l'argent en masse, mais ça va coûter beaucoup, beaucoup d'argent. Alors, honnêtement, là-dessus, je voulais partager ça. Je ne sais pas, Luc, ce que tu en penses.
Mais j'en pense que tu as raison. Ils vont mettre 10 milliards, mais après ça, ils vont collecter, par exemple. C'est 8 % de retour sur leur investissement pendant 100 ans.
As-tu déjà vu ça, un projet, un investissement en transport collectif qui a un rendement de 8 %?
Non, ça n'existe pas nulle part dans le monde, ça n'existe pas, juste au Québec. C'est juste au Québec.
En conclusion.
C'est cela, en conclusion.
Parfait. Merci à tous les deux. Bonne fin de semaine.
C'est 23.